France Inter.
Ce soir, eh bien, j'ai trouvé un moyen facile, certes, mais toujours redoutablement efficace pour vous faire échapper à la grisaille persistante dont vous allez vite deviner.
Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. But here comes the sun, doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say, hey. Little darling, it feels like years since it's been here. But here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say.
Imaginez que vous venez d'entendre, au jour et à l'heure où je vous parle, le 1er décembre 2025, vers 21h et des poussières, la chanson la plus populaire au monde, signée par les Beatles, Here Comes the Sun, que vous venez d'entendre dans une version très dénudée, sans fioritures, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et oui, sur mon site de streaming préféré, que je ne citerai pas, Here Comes the Sun totalise plus de 1 milliard d'écoutes et se classe devant Come Together et Let It Be, ce qui est une ironie de l'histoire aussi sympathique qu'inattendue et qui constitue même une sorte de revanche posthume au fond pour l'auteur et l'interprète de cette chanson, et George Harrison. Qui a souffert, c'est notoire, plus d'une fois de la condescendance de John Lennon et Paul McCartney à son égard, puisqu'ils le considéraient comme leur petit frère. C'est d'ailleurs un des moments les plus touchants du documentaire Get Back, vous savez, cette mini-série de 3 épisodes, près de 8 heures en tout, qu'on avait pu découvrir il y a 4 ans, en 2021, qui avait été monté à partir d'archives inédites, hein, les images des Beatles au travail en janvier 1969, filmées en continu, hein, jusqu'à ce fameux concert impromptu sur le toit minuscule de l'immeuble occupé par leur firme à Apple hein, près de Piccadilly le 30 janvier. Oui, c'est un des moments les plus touchants parce que à un moment il y a un micro indiscret et caché dans un vase qui capte une conversation entre John et Paul. Il commente l'attitude de George, qui est un peu revêche, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et il s'avoue que peut-être ils l'ont blessé involontairement plus d'une fois en minimisant son apport au groupe. Et c'est vrai, quand on regarde ce documentaire Get Back, on constate que George est à cran. Et à un moment donné, d'ailleurs très calmement, à sa façon, très calme, distante et détachée, il dit « C'est fini, je me barre, débrouillez-vous sans moi, je m'en vais ». Alors, il est revenu après. Pourquoi consacrer ce soir une émission de plus aux Beatles, un groupe qui a cessé d'exister il y a plus d'un demi-siècle et dont on peut considérer qu'on a fait le tour un nombre incalculable de fois. Non, il n'y a plus rien de nouveau à dire sur eux, et peut-être qu'il y a de ma part, et je pense parler au nom de beaucoup de gens de mon âge, enfin autour de mon âge, une sorte de plaisir enfantin, voire infantile, à écouter toujours les mêmes récits. On est un peu comme les petits-enfants qui redemandent à leurs parents de leur raconter encore, une fois de plus, la même histoire. C'est une forme de régression, peut-être, chez nous, vers les rêves de l'enfance. D'ailleurs, Apple Corps, la compagnie formée par les Beatles, a été rachetée par une usine de divertissement pour enfants et grands-enfants, Disney, dont le but est de recycler éternellement les mêmes histoires, les mêmes rêves aux enfants. C'est très logique, tout ça. Alors, bon, le prétexte d'évoquer ce soir, une fois de plus, les Beatles est mince, mais il existe. Je m'explique. Disney vient de mettre en ligne une nouvelle version remontée du documentaire Anthology. C'est une passionnante rétrospective de l'histoire du groupe très fouillée qu'avait supervisé en 1995 les trois Beatles survivants, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Harrison qui n'avait plus que 6 ans à vivre. Et un ultime épisode, un 9e épisode, parce qu'il y en a 8 en tout, il y en avait 8, que j'ai pas encore vu, a été ajouté. Alors d'après ce que j'ai appris, on y voit des images inédites de ce qu'on avait vu alors qu'en partie. Paul, George et Ringo réunis un bel après-midi d'été 1994 dans le parc de la propriété de George. Ils racontent leurs souvenirs de jeunesse, leur gaminerie, et Paul et George, avec un équipé d'un ukulélé, chantent les vieilles chansons de leur jeunesse. Alors je ne sais pas s'ils évoquent à cette occasion cet épisode de 1963, je crois que c'est dans le 2e épisode de la série en fait. Oui, un soir d'hiver, alors que les Beatles roulent de ville en ville sans s'arrêter, hein, c'est leur première grande tournée en Grande-Bretagne, le pare-brise de leur van se fend sous le choc d'un caillou. Et le chauffeur, Mal, une force de la nature, un ancien videur, cogne la vitre de son poing pour continuer à voir la route. Et les voilà qui roulent des heures et des heures sans pare-brise, en plein brouillard, en plein hiver, alors qu'il fait autour de moins 10. Pour ne pas geler, que font les quatre Beatles? Ils se couchent sur la banquette arrière et ils s'empilent comme un millefeuille pour se réchauffer. Et quand celui du haut sent qu'il va tomber en hypothermie, il change de position et il se met en bas et ainsi de suite. Voilà, c'est une des histoires qu'on apprend quand on regarde ce documentaire. Alors pour accompagner la nouvelle version de ce documentaire, donc la Anthology, qui il y a 30 ans avait été accompagnée de 3 doubles CD présentant des titres rares, eh bien on a décidé d'ajouter un ultime volume, le 4e CD, double CD. Alors bon, il y a rien de vraiment nouveau. La plupart des variantes de chansons existantes, maquettes, etc., présentes dans ce nouveau recueil, on les connaissait déjà, elles étaient éparpillées dans d'autres rééditions, notamment donc cette version dépouillée de Here Comes the Sun, sans synthétiseur, sans chœur. Elle figurait déjà dans la réédition de Abbey Road il y a quelques années. Here Comes the Sun, d'ailleurs, il y a un passage, hein, le pont de la chanson, qui rendait fou le pauvre Ringo Starr, parce que George avait inséré une mesure extrêmement bizarre qui venait de la musique indienne et qu'il ne savait pas comment marquer le rythme. Cela dit, j'ai pu redécouvrir dans ce nouvel album, ce 4e volume de Anthology, entre guillemets, des choses qui m'ont enchanté. Comme cette version très pure que je vous propose d'écouter d'une chanson qui m'ensorcelait. Elle était dans la BO du film Quatre garçons dans le vent, A Hard Day's Night. Elle s'appelle If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Si je tombais amoureux de toi, me promettrais-tu d'être fidèle? Bon, c'était encore bien naïf tout ça. Cela dit, l'absence d'écho, d'effet d'écho sur la voix de John par rapport à l'original, apporte quelque chose d'autre, de plus nu. Et nous voici, grâce à la magie de la radio, précipité en 1963, il y a plus de 60 ans, dans l'atelier des Beatles.
Take 11.
Yeah, we're on. We're on the air, folks. Come on. If I fell in love with you, what? If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust
Lonnie's gonna regret not singing this one. Okay, start.
Okay, one, two, three.
Oh, sorry, I bumped.
One, two, three.
Seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been the word. But as it is, I'll dream of her tonight. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Light and night and night. Falling, yes I'm falling. And she keeps calling me back again. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. I'm falling,
reprise inédite d'une de mes chansons préférées des Beatles, I've Just Seen a Face. Elle figurait juste avant Yesterday dans l'album des chansons du film Help, je crois que c'était en 64. C'est un album qu'on avait à la maison quand j'étais enfant, je devais avoir, je sais pas, 7 ans. Et je sais pas pourquoi cette chanson me fascinait, le tempo extrêmement rapide sans doute, ça me surexcitait aussi qu'il chante aussi vite. Il y avait pour moi là-dedans une forme d'insolence. D'ailleurs, certains adultes, en ce temps-là déjà, reprocher aux enfants des années 60, de parler trop vite, de ne pas articuler, articule, c'est un truc qu'on entendait toujours. Et le fait donc de rien comprendre aux paroles ajoutait évidemment à une certaine magie. D'ailleurs, je ne savais pas qui chantait au juste, si c'était Paul ou John, je ne distinguais pas leur voix. Pour moi, les Beatles, c'était un tout lointain, mystérieux, c'était une autre planète, il y avait autour de tout ça un aspect féerique qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Alors, bon, je l'ai déjà raconté, mais enfin, je me permets de le raconter à nouveau. Encore lycéen, en 1976, je suis allé voir un concert de Wings, hein, le groupe que Paul avait formé avec sa femme Linda, quelques temps après la séparation des Beatles. Et Wings, ça m'agaçait. Je sais pas, j'aimais pas leur style, j'aimais pas la coiffure de Paul, j'aimais pas ses fringues, j'aimais pas ses sourires, j'aimais pas ses chansons, j'aimais pas son plus. Enfin, j'aimais rien. Tout ce que j'aimais chez Wings, c'est pour ça que j'étais allé, c'est qu'il y avait Paul qui avait été dans les Beatles. Et je savais qu'il y avait un intermède pendant lequel il chantait assis sur un tabouret quelques chansons des Beatles, pas beaucoup, c'était une sorte de récréation en somme, c'était un peu unplugged, hein, on disait pas ça encore comme ça, donc c'est pour ça que j'y étais allé. Et d'ailleurs il chantait Yesterday, alors c'était irréel d'ailleurs d'imaginer que ça puisse exister, tellement on avait fantasmé dès 1973 le retour des Beatles, alors des concerts des Beatles, mais alors ça paraissait mais inimaginable, c'était un truc aussi impossible que l'arrivée sur Terre d'un vaisseau extraterrestre, enfin bon bref. Pardon, ce moment magique avait été gâché pour moi par les hurlements stridents des fans féminines de Paul. Mais j'avais quand même assisté à cet intermède magique pendant lequel il avait justement chanté « I've just seen a face ». Vous imaginez le choc, l'immense moment de joie que ça a été pour moi. Et quand je réécoute cette chanson, bah c'est la même chose, surtout dans cette version très brute, hein, qu'on peut découvrir dans le 4e volume de l'Anthology qui vient de paraître, sans écho sur la voix, sans fioritures. Et je crois que ça a correspondu pour moi à ma découverte du rock'n'roll, un certain rock'n'roll teinté de country. Quand j'analyse maintenant, il y a même presque de la country archaïque, du bluegrass là-dedans. C'était quelque chose d'assez proche de Buddy Holly, le rocker texan, le rocker préféré de Paul McCartney, qui allait aussi d'ailleurs devenir le mien, loin devant les autres. Voici une autre chanson des Beatles, que celle-là, je l'ai découverte à sa sortie, en 67, Baby You're a Rich Man. C'était la face B d'un 45 tours, une chanson très célèbre, All You Need Is Love, que ma mère m'avait rapporté d'un voyage à Londres. C'était assez merveilleux. Et cette version de Baby You're a Rich Man rend la voix de John Lennon bien plus proche, bien plus présente. Et ça me fait très plaisir de vous la faire entendre ce soir dans ce Very Good Trip spécial sur France Inter consacré aux Beatles, enfin au cours duquel vous entendrez quelques versions inédites de chansons et moins connues, comme celle-ci donc, Baby You're a Rich Man.
Thing to do. Baby, you're a rich man. keep that one. Market Fab.
Eh oui, keep that one, Market Fab. Garde celle-là et note dessus, super. Une version sauvage de Helter Skelter des Beatles en 68, hein, presque punk à certains moments. On croirait presque assister à une répétition des Sex Pistols. On avait déjà découvert cette version en 2018 à la réédition du célèbre double blanc du groupe. C'était un très bon choix de la mettre en avant dans ce quatrième volume, donc nouveau, de la anthology des Beatles, ce qui vient, comme je vous le disais, de sortir. Alors, Helter Skelter, c'est le terme, c'est une attraction foraine, hein, je sais pas au juste comment on l'appelle en chez nous, c'est une sorte de toboggan qui tourne en spirale autour d'une sorte de pylône, et les paroles disent explicitement: quand je me retrouve tout en bas, je remonte en haut du toboggan et ça recommence. McCartney a commenté cette chanson qui est donc 100% de son cru: on est euphorique et puis après on se sent minable. Alors évidemment ça fait référence à certaines drogues qui procurent exactement cet effet-là, une montée joyeuse suivie d'une descente brutale, et puis ça évoque le sexe aussi. D'ailleurs, l'histoire est assez curieuse, c'est que Paul McCartney avait suggéré aux autres Beatles de prendre au pied de la lettre ce que Pete Townshend des Who avait déclaré à un journal à propos d'une chanson qu'il préparait, qui voulait que cette chanson des Who soit la plus bruyante, la plus sale, la plus distordue possible. Et il s'est dit, moi je vais relever le défi. Alors l'enregistrement, c'est historique, a été pour les Beatles un épuisant marathon. Et d'ailleurs, dans la version qu'on connaît, la version du double blanc de Helter Skelter, on entend Ringo qui a de plus en plus de mal à garder le tempo, hurler un moment: j'ai des ampoules aux doigts. Il en pouvait plus. Et le plus étonnant, finalement, dans tout ça, c'est que une des principales sources du hard rock et même du metal trouve sa source chez McCartney, que beaucoup, contre l'évidence, se sont longtemps complus à présenter comme quelqu'un de gentillet, de mièvre, enfin voilà. Alors voici une chanson, un bref extrait d'une chanson bien connue des Beatles, chantée par Paul McCartney, qui elle peut-être peut attiser ce reproche de mièvrerie que beaucoup confondent hélas avec la tendresse, qui n'est pas du tout la même chose. Alors voici ce que Paul a dit à ce sujet. Il l'a écrit dans son excellent livre Paroles et souvenirs, de 1956 à aujourd'hui, qui est paru chez Buchet Chastel il y a quelques années. I Will, c'est la chanson que je vous propose d'écouter, un petit morceau, célèbre les joies de l'amour. On peut juger ça, dit Paul, sentimental, fade, voire sirupeux. C'est un point de vue que je peux comprendre. Sauf que l'amour, plaît-il, c'est une des forces les plus puissantes sur Terre. Une force intense, universelle, qui est tout sauf mièvre. C'est bien dit. Juste après, vous entendrez une curiosité, c'est une petite improvisation des Beatles à partir d'une chanson de Paul. C'était juste après la séance pendant laquelle celui-ci avait chanté « I Will ». Les Beatles, d'ailleurs, avaient utilisé un segment de cette improvisation à la fin de la chanson « Cry Baby Cry » de John Lennon. Mais là, vous allez entendre l'intégrale de cette chanson qui s'appelle « Can You Take Me Back ». On avait pu découvrir cette version dans la réédition du double blanc en 2018, mais à dire vrai, au milieu de l'avalanche de maquettes, variantes et improvisations qui accompagnaient cette réédition, ça m'avait totalement échappé.
1, 2, 3. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I won't.
Yes, you will.
Take me.
happy here, honey? Happy, are you happy here? I ain't happy here, my honey. Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Are you happy living here, honey? Honey, are you happy living here? I ain't happy living here, baby. Honey, can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Mama, can you take me back? Can you take me back?
Very Good Trip sur France Inter.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child.
Yeah, it is better.
Une répétition de ce qui reste sans doute une des plus belles chansons de John Lennon, que ce soit avec ou sans les Beatles, et qui figurait, cette chanson, dans le célèbre double blanc paru à la fin de l'année 1968. Une chanson que John avait consacrée à sa mère, Julia, à laquelle d'ailleurs les services sociaux avaient retiré la garde de son fils, John, et qu'elle avait dû confier à sa sœur Mimi. C'est elle qui est en effet la tante Mimi qui avait élevé John. Julia était ensuite réapparue dans la vie de John, mais il l'avait perdue de nouveau, et cette fois de façon définitive à l'âge de 17 ans, puisque Julia était morte écrasée par un chauffard. En l'occurrence, c'était un policier ivre qui apprenait à conduire. Paul en parle de façon très émouvante dans ce documentaire dont je vous parlais, Anthology, qui a été diffusé sur la plateforme Disney et qu'on peut redécouvrir dans un nouveau montage avec une image et un son amélioré. Paul dit que c'est le fait d'avoir lui aussi perdu sa mère à peu près au même âge. Elle a été emportée par un cancer. C'est ça qui l'a fortement rapproché de John et qui a scellé vraiment une union très, très intense. Voici un autre sommet de John. C'est la première version de Don't Let Me Down, une sorte de classic soul, tel que les Beatles l'ont interprété le 30 janvier 1969 sur le toit de l'immeuble de Apple, accompagné par Billy Preston au piano électrique. Cette version figurait déjà dans la réédition de l'album Let It Be, qui est paru en 2021, en même temps que le documentaire Get Back dont je vous parlais, et on peut y entendre John Lennon au sommet de sa forme vocale. Let Me Down, telle qu'elle a été chantée par John Lennon le 30 janvier 1969 sur le toit extrêmement étroit de l'immeuble de Apple près de Piccadilly. C'est d'ailleurs un point sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que c'était extrêmement dangereux pour les Beatles de jouer vraiment sur ce toit qui était pratiquement sans garde-fou, très très étroit. Enfin, c'était une idée assez délirante. Enfin, on voit très bien ça dans le documentaire Anthology, et déjà on le voyait dans le film Let It Be. En tout cas, cette version a quelque chose de plus cru, de plus, je sais pas, de plus intense que celle que l'on connaît, enregistrée en studio. Alors, je vous ai parlé des années 1994 et 1995, la période où les trois Beatles survivants se sont retrouvés afin, pour la première fois d'ailleurs de leur vie, afin de se retourner ensemble sur leur passé. Ils avaient alors autour de la cinquantaine. Le but était alors donc de construire un documentaire sur leur histoire, ce qui allait aboutir à la première version donc du documentaire Anthology. Et logiquement, il a été question de créer une bande originale. Il y avait évidemment les chansons des Beatles connues, mais déjà, ceux qui ont fait le film ont commencé à chercher dans les archives des chansons sous une forme qu'on ne connaissait pas encore. Et la question s'est même posée à un moment de créer des musiques inédites qui auraient été initialement, c'était prévu que ce soit des musiques de fond. Paul, George et Ringo s'en sont parlé et ils se sont dit, mais pourquoi on ne créerait pas une nouvelle chanson? Mais pour eux, il n'était évidemment pas question de faire une nouvelle chanson sans John. C'était strictement donc impossible. Je rappelle que John Lennon s'est fait assassiner en décembre 1980. Et Paul a eu une idée. Il a eu l'idée de demander à Yoko Ono, avec laquelle il avait repris contact lors de l'intronisation des Beatles au Rock and Roll Hall of Fame en 1988, il lui a demandé s'il restait des chansons inédites de John dans ses archives privées. Yoko lui a alors transmis une cassette de 4 chansons que John avait enregistrées chez lui, dans son appartement du Dakota Building à la fin des années 70, devant lequel il s'était fait assassiner. C'était de simples maquettes. Et c'est ainsi qu'est né, à partir d'une de ses chansons, eh bien, ce nouveau titre signé en 1994 par les Beatles qui s'appelait Free as a Bird. C'est un accompagnement post-mortem à partir de la voix de John qui avait été extraite de la maquette. Un exercice extrêmement délicat. Très très difficile pour les trois ses trois camarades, et Paul a dit que lui, George et Ringo s'étaient en fait pour se détendre, pour y arriver, s'étaient efforcés d'imaginer que John était juste parti pour quelques jours et qu'il leur avait confié la tâche de terminer cette chanson, et ça a donné ceci.
too. The love that we once knew always made me feel so free.
Very Good Trip, Mishka Assayas sur France Inter.
All my little plans and schemes gone like some forgotten dreams. Seems that all I really was doing waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for us.
Real Love, c'était la seconde chanson créée par les trois Beatles survivants au milieu des années 90 à partir d'une maquette de John Lennon. Real Love figurait dans le deuxième volume de l'Anthology en CD qui était paru en 1995 ou 96, je sais plus trop. Je me souviens que les critiques s'étaient mises à l'époque à pleuvoir, sacrilège, escroquerie, qu'est-ce que c'est que ce son pourri, on dirait une chute de Electric Light Orchestra. C'était pas totalement infondé de parler de ce groupe, puisque c'est Jeff Lynne, le grand copain de George Harrison, l'homme de Electric Light Orchestra, ELO, qui avait supervisé l'enregistrement. Personnellement, c'est un avis qui n'engage que moi, j'avais trouvé ça bien quand même, et même touchant. Et aujourd'hui, grâce au progrès des outils informatiques, de l'intelligence artificielle, on a pu nettoyer, entre guillemets, la voix de John Lennon, qui était à l'origine, comme je vous l'ai dit, uniquement captée sur cassette audio et la rendre bien plus présente. Pour le troisième volume de la Anthology, qui était donc paru à la fin du XXe siècle, Paul, George et Ringo avaient tenté de faire pareil avec une troisième chanson de John qui s'appelait Now and Then. Mais George avait fini par mettre son veto, jugeant que la qualité de la voix de John, enfin telle qu'on avait pu la récupérer alors, était trop faiblarde. Cependant, plus de 25 ans après, grâce à un outil informatique développé par l'IA, on a pu extraire, restituer un son d'une bien meilleure qualité pour la voix de John. Paul et Ringo, les deux uniques Beatles survivants en 2024, hein, je rappelle que George est mort en 2001, on dit, c'est l'année dernière, on dit banco. Et alors là encore, il y a eu énormément de critiques, alors auxquelles je ne souscris pas du tout. La chanson et les paroles de John Lennon sont splendides, la mélodie a une sorte de pureté fragile qui la rend mémorable tout de suite. Et d'ailleurs, Paul McCartney a chanté cette chanson Now and Then lors de son dernier concert parisien l'année dernière en 2024, et ça a été un des plus beaux moments du récital. Et voilà, c'est Now and Then, les Beatles, les derniers mots du dernier chapitre d'une merveilleuse histoire que nous transmettrons sûrement à nos descendants.